l'histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn.
Chapitre 5. Une étrange révolution. Deuxième partie. En 1787, on ne ressentait pas seulement la nécessité d'un gouvernement fort et centralisé pour protéger d'immenses intérêts économiques, mais également une crainte immédiate d'une révolte des fermiers mécontents. Cette crainte avait été en particulier alimentée en 1786 par un soulèvement à l'ouest du Massachusetts, connu sous le nom de « Révolte de Chase ». Dans les villes de l'ouest du Massachusetts, on nourrissait un fort ressentiment envers les autorités de Boston. La nouvelle constitution de 1780 avait durci les critères permettant l'accession au droit de vote. Personne ne pouvait, en outre, accéder à un poste officiel sans posséder une fortune considérable. Plus grave encore, les autorités refusaient d'émettre du papier-monnaie, à l'inverse d'autres États, le Rhode Island par exemple, qui s'y était finalement résolu pour permettre aux fermiers trop endettés de rembourser plus facilement leurs créditeurs. Dans certains comtés, on commença à se réunir illégalement pour former une opposition à la législature de l'État. Au cours d'une de ces réunions, l'un des participants, Plug Yeager, exprima sa façon de penser. « On m'a suffisamment trompé. On m'a contraint à prendre plus que ma part dans la guerre. J'ai supporté les taxes sociales, les impôts communaux, les impôts provinciaux, les impôts continentaux et tous les impôts imaginables. J'ai été traqué, pressuré par les shérifs, les constables et les collecteurs, et l'on a vendu mon troupeau bien au-dessous de sa valeur. Les puissants vont nous prendre tout ce que nous avons, et j'estime qu'il est temps de nous révolter, d'en finir avec tout ça, et de nous débarrasser des tribunaux, des shérifs, des collecteurs d'impôts et des juristes en tout genre. » Le président de l'Assemblée dut user de son marteau pour faire taire les applaudissements. Lui et d'autres désiraient que leurs revendications soient entendues, mais de manière pacifique, en adressant une pétition à la Cour générale de Boston. Cependant, les poursuites judiciaires continuaient dans le comté de Hampshire, en particulier dans les villes de Northampton et de Springfield, où l'on saisissait les troupeaux des fermiers qui ne s'étaient pas acquittés de leurs dettes. On saisissait également leurs terres, juste à l'époque des moissons. Ainsi, les vétérans de l'armée révolutionnaire, furieux d'avoir été maltraités au moment de la démobilisation, on leur avait donné des certificats de bonne conduite au lieu d'argent liquide, commencèrent à organiser les fermiers en petites troupes et compagnies armées. L'un de ces vétérans, Luke Day, parut le matin du jugement à la tête d'une fanfare militaire. Il n'admettait toujours pas d'avoir passé l'été précédent en prison pour dette. Le shérif demanda à la milice locale de défendre le tribunal contre la troupe armée des fermiers. Mais il apparut que la plupart des membres de cette milice étaient déjà aux côtés de Luke Day. Le shérif finit par réunir 500 hommes. Les juges passèrent leurs robes, puis attendirent que le shérif soit prêt à protéger leur chemin jusqu'au tribunal. Mais sur les marches du tribunal, Luke Day entreprit la lecture d'une pétition rappelant le droit constitutionnel du peuple à protester contre les actes inconstitutionnels de la Cour générale et demanda au juge d'ajourner la séance jusqu'à ce que cette dernière prenne une décision. Aux côtés de Luke Day se tenaient 1500 hommes en armes. Les juges ajournèrent la séance. Peu après, aux tribunaux de Worcester et d'Atoll, les fermiers empêchèrent la Cour de se réunir pour statuer sur la saisie de leurs propriétés. La milice fut soit trop compréhensive, soit trop débordée par le nombre pour réagir. À Great Barrington, une milice d'un millier d'hommes fut confrontée à une foule d'hommes armés occupant la place publique. La milice était partagée sur ce qu'il convenait de faire. Lorsque le président du tribunal proposa que la milice se déclare, les miliciens en faveur de la tenue du procès devant se placer à droite et les autres à gauche, 200 miliciens se mirent à droite et 800 à gauche. Les juges ajournèrent le procès. Le gouverneur et les responsables politiques du Massachusetts s'inquiétèrent de la situation. Samuel Adams, autrefois considéré comme un leader radical à Boston, insistait à présent pour que les gens respectent les procédures légales. Le problème dépassait les frontières du Massachusetts. Dans le Rhode Island, les débiteurs avaient soumis le corps législatif et émettaient du papier monnaie. Dans le New Hampshire, en septembre 1786, plusieurs centaines de personnes firent le siège de l'Assemblée législative d'Exeter, exigeant que les impôts soient remboursés et que l'on émette du papier-monnaie. Ils ne se dispersèrent que lorsqu'on les menaça d'avoir recours à l'armée. Daniel Chase naquit dans l'ouest du Massachusetts. Misérable ouvrier agricole, il rejoignit l'armée révolutionnaire lorsque la révolution éclata. Il combattit à Lexington, Bunker Hill et Saratoga et fut blessé au combat. En 1780, n'ayant pas touché sa solde, il démissionna de l'armée et retourna chez lui. Il comparut bientôt devant les tribunaux pour dette. Il observait aussi ce qui arrivait aux autres. Une femme malade, alitée, incapable de payer ses dettes, s'était vue jetée hors de son lit. Chase s'engagea concrètement quand, le 19 septembre, la Cour suprême du Massachusetts se réunit à Worcester et accusa 11 responsables de la rébellion, dont 3 de ses amis proches, d'être des fauteurs de troubles, émeutiers et séditieux, ayant, illégalement et par la force des armes, empêché la bonne marche de la justice ainsi que l'exécution des lois du Commonwealth. La Cour suprême décida de se réunir pour en juger à Springfield une semaine plus tard, envisageant également d'y inculper Luke Day. Chase rassembla 700 fermiers armés, pour la plupart des vétérans de la guerre révolutionnaire, et les conduisit à Springfield. Là, ils tombèrent sur un général avec ses 900 hommes et un canon. Daniel Chase demanda au général la permission de défiler. Ce dernier la lui accorda. À mesure que Chase s'avançait avec ses hommes au son des fifres et des tambours, leur rang grossissait. Certains miliciens les rejoignirent et des renforts arrivèrent des alentours. Les juges suspendirent les audiences pour la journée, puis les ajournèrent définitivement. Lorsque la Cour générale de Boston se réunit enfin, le gouverneur, James Baldwin, lui demanda de venger l'honneur bafoué du gouvernement. Ceux qui récemment encore s'étaient rebellés contre l'Angleterre en appelaient, une fois installés aux commandes, à l'ordre et à la loi. Samuel Adams prêta son concours à la rédaction d'une loi contre les attroupements séditieux, le Riot Act, et une résolution suspendit l'habeas corpus, autorisant les autorités à maintenir sans procès les individus en prison. En même temps, le corps législatif du Massachusetts fit quelques concessions aux fermiers en colère, en acceptant que certains impôts en retard soient réglés en nature plutôt qu'en argent. Rien n'y fit. À Worcester, 160 rebelles se rendirent au tribunal. Le shérif rappela le Riot Act, mais les insurgés déclarèrent qu'ils ne se disperseraient que lorsque les juges en feraient autant. Le shérif hurla quelque chose à propos de pendaison. Quelqu'un se glissa derrière lui et mit une branche de ciguë dans son chapeau. Les juges s'en allèrent. L'armée commandée par le général Benjamin Lincoln et financée par les négociants de Boston fit son entrée dans le conflit. L'hiver se fit rude. Les rebelles, dépassés par le nombre, se débandèrent. Après que Daniel Chase eut trouvé refuge dans le Vermont, ses compagnons commencèrent à se rendre. Il y eut encore quelques morts au combat, puis quelques actes de violence sporadiques, désespérés et inorganisés contre les autorités. Incendie d'entrepôts ou massacre de chevaux appartenant à un général. un soldat fut tué au cours d'une escarmouche nocturne. À Northampton, on jugea quelques insurgés capturés. 6 d'entre eux furent condamnés à mort. On jugea 33 rebelles supplémentaires, dont 6 encore furent condamnés à mort. On discuta de la nécessité de poursuivre les pendaisons. Le général Lincoln prêchait le pardon. Une commission de clémence fut créée, mais Samuel Adams trancha. Si nous étions en monarchie, le crime de trahison pourrait être pardonné ou légèrement sanctionné, mais ceux qui osent se dresser contre les lois de la République doivent mourir. Les pendaisons reprirent de plus belle. Certains condamnés furent néanmoins graciés. Daniel Chase fut amnistié en 1788 et put revenir au Massachusetts, où il mourut, pauvre et oublié de tous, en 1825. Le principal problème de la démocratie dans la société post-révolutionnaire n'était pas les limites constitutionnelles du suffrage. Il était bien plus profond et excédait le strict cadre de la Constitution. Il s'agissait de la fracture de la société entre riches et pauvres. En effet, si quelques personnes détenaient d'immenses fortunes et bénéficiaient d'une grande influence, si elles contrôlaient la terre, l'argent, la presse, l'Église et le système éducatif, comment, dès lors, le seul vote aurait-il pu venir bouleverser la donne ? Il y avait encore un autre problème. N'était-il pas dans la nature même des gouvernements représentatifs, même largement soutenus par la base, d'être conservateurs et de prévenir les changements radicaux ? Enfin, vint l'heure de ratifier la Constitution et de la soumettre au vote des conventions de chaque État. Elle devait obligatoirement être adoptée par au moins 9 États sur 13. Dans l'État de New York, où les débats furent intenses, une série d'articles anonymes parus dans la presse permet de mieux comprendre la véritable nature de cette Constitution. Ces articles, qui militent pour l'adoption de la Constitution, furent rédigés par James Madison, Alexander Hamilton et John Jay, et sont aujourd'hui plus connus sous le nom de « Federalist Papers ». Dans le 10e de ces Federalist Papers, James Madison prétendait qu'un gouvernement représentatif était nécessaire dans une société minée par les conflits entre factions adverses. Ces conflits naissaient de l'inégale répartition des richesses. Ceux qui possèdent et ceux qui n'ont rien ont toujours représenté des intérêts distincts dans toutes les sociétés. Le problème, selon lui, était donc de contrôler ces conflits générés par les inégalités de fortune. Les factions minoritaires pouvaient être contrôlées, toujours selon Madison, par l'application du principe de prise de décision à la majorité des voix. Ainsi, le véritable problème était donc, pour Madison, de contrôler la faction majoritaire. La solution était offerte par la Constitution sous la forme d'une vaste république, c'est-à-dire une grande nation réunissant 13 États distincts. Ainsi, il sera plus difficile à ceux qui le souhaiteraient d'avoir une idée précise de leur véritable force et d'agir à l'unisson des autres. L'influence des dirigeants factieux pourrait peut-être allumer l'étincelle dans leurs états respectifs, mais ne pourrait provoquer une conflagration généralisée à tous les autres états. L'un des arguments en faveur d'une vaste république destinée à maintenir la paix révèle très clairement de quel type de paix Madison entend parler. Il écrit, toujours dans le 10e des Federalist Papers, que cette fureur du papier-monnaie, de l'annulation des dettes, de la répartition égalitaire des biens ou de tout autre projet insensé et malsain du même type sera moins à même de corrompre l'ensemble de l'Union que de pervertir un seul de ses États membres. Si on considère les intérêts économiques dissimulés derrière les dispositions politiques inscrites dans la Constitution, ce document n'est plus simplement l'œuvre d'hommes sages tentant d'instituer une société honnête et justement organisée. Mais la tentative de certains groupes de sauvegarder leurs privilèges tout en accordant juste ce qu'il faut de droits et de liberté à un nombre suffisant de gens pour s'assurer un soutien populaire. Vers 1776, certaines personnalités de premier plan des colonies anglaises d'Amérique firent une découverte qui allait se révéler extrêmement utile au cours des 2 siècles suivants. Ils imaginèrent qu'en inventant une nation, un symbole, une entité légale appelée États-Unis, il serait en mesure de s'emparer des terres, des privilèges et des pouvoirs politiques détenus jusque-là par les protégés de l'Empire britannique. Du même coup, il pourrait contenir un certain nombre de révoltes en suspens et forger un consensus qui assurerait un soutien populaire suffisant au nouveau gouvernement contrôlé par une nouvelle élite privilégiée. Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours.
Par Howard Zinn.